le commandement de l'amour fraternel. Il est donné, eh bien, après la première lettre des Actes des Apôtres, qui nous montre la constitution de l'Église. Et on est en plein dans cette atmosphère, puisqu'il y a eu, nous avons un nouveau pape, donc avec les élections, avec maintenant tous les rites d'introduction de son pontificat. Tout le monde guette ses premières paroles, ses premiers gestes, que sera-t-il ? Mais c'est cette ambiance-là, l'ambiance de la mise en place de l'Église au niveau de ses structures et de ses serviteurs, bien sûr. L'Apocalypse, elle, cette épître, nous montre, eh bien, ce monde dont nous rêvons tous, ce monde nouveau que Dieu nous promet. Il arrive au millénium, celui-là, c'est-à-dire tout à la fin de l'Apocalypse. Après le premier combat eschatologique, il y en a deux. Hein, le premier, c'est à Armageddon, puis vient le millénium où l'Église est enfin en paix au milieu des nations. La paix se qualifie vraiment cette Jérusalem céleste qui descend du ciel. Et puis après, ces mille ans, il y aura une ultime rébellion du dragon qui emportera à nouveau les nations contre Dieu et ses serviteurs. Et ce sera la fin des temps. Voilà comment l'Apocalypse nous dessine les choses. Donc dans cette première étape de la paix céleste, ça commence sur la terre avec la Jérusalem qui vient d'en haut, la Jérusalem nouvelle. Et il y a cette paix. La paix du royaume des cieux, et elle est garantie par la présence de Jésus au milieu d'elle. La paix, c'est pas quelque chose, la paix sociale, c'est pas la paix du royaume des cieux, c'est différent. En quoi diffère-t-elle? Même quand les deux sont en état de paix, la cité terrestre et la cité céleste, qui elle est toujours en état de paix, eh bien, ce sont les motivations. Et les motivations, ça change tout. On fait la paix socialement autour d'intérêts communs. Et puis on ne le fait pas toujours de bon gré, on a besoin de moyens de coercition, la police est là, ou l'armée, pour garantir que tout le monde restera dans les normes, dans les limites prescrites par la loi, afin que la paix sociale soit garantie. La paix sociale, elle n'est pas fondée sur l'amour fraternel. Et c'est pourquoi elle est si fragile. On le voit à chaque fois qu'une guerre éclate, c'est quelque chose de terrible. C'est un raz-de-marée de violence, de haine qui était contenu, qu'on ne pouvait pas exprimer, en tout cas pas d'une manière satisfaisante, et qui, comme un raz-de-marée, emporte tout derrière elle. Cette paix sociale est fragile parce qu'elle n'est pas fondée sur le royaume des cieux. Alors Jésus dit à ses disciples, vous devez goûter de cette paix et nous rêvons de cette paix. Oui, nous aimer les uns les autres et qu'est-ce que ça signifie? C'est pas de l'empathie. Trop souvent, on confond l'amour fraternel avec l'empathie. L'empathie, c'est un sentiment psychologique, c'est pas un sentiment surnaturel. Tout le monde n'a pas d'empathie au même niveau, même des gens qui en ont très peu. Est-ce que ça va les empêcher d'aimer leurs frères? Non, ce n'est pas du même ordre. L'empathie, qu'est-ce que c'est? Comment la définir? C'est une sympathie naturelle qu'on éprouve envers les voisins, envers ceux qu'on rencontre, etc. C'est qui communique une facilité de communication, précisément. On écoute, ça nous met dans une attitude d'écoute, de compassion aussi, vis-à-vis des problèmes que les gens peuvent avoir. Et puis, il y a de l'entraide aussi. Mais tout cela, ce n'est pas encore l'amour fraternel. C'est au-delà l'amour fraternel. C'est au niveau de l'âme. Alors, on peut être très froid dans son mode d'abord, mais cultiver un amour fraternel extrêmement intense, donc sans empathie a priori. Comment? Eh bien, le fait d'être dans la foi nous fait comprendre que tous les autres êtres humains, créatures exactement comme nous, attirent le même regard de Jésus, le même regard de Dieu qui est le Père de tous. Nous sommes donc, on regarde avec comme une famille, en fait, l'humanité tout entière. Alors une famille, quand elle est nombreuse, on ne voit pas toujours les membres, on les connaît à peine, on ne les connaît pas du tout. Mais peu importe, il y a quelque chose qui transcende la position personnelle à ce moment-là. Oui, nous voyons le souci du cœur de Jésus, du sacré cœur pour toutes les âmes. Et alors oui, nous aimons nos frères, quel que soit l'état spirituel, moral dans lequel ils se trouvent. Nous n'aimons pas l'état moral de ceux qui rejettent Dieu, ça va de soi, ce n'est pas leur état moral qu'on aime. On les aime en tant que créatures, point. Créatures venant du Père. Et si Jésus est mort sur la croix, c'est bien pour nous montrer que aucun de ses enfants, il n'est indifférent à aucun de ses enfants. Mes petits-enfants, c'est dans le passage là, quand Judas est parti, eh bien, il leur parle de l'amour fraternel. Quand Judas était là, il ne pouvait pas. Petits-enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Petits-enfants, c'est le regard de Dieu sur chacun d'entre nous. On a fêté il y a une semaine, Fatima. Et l'ange apprenait aux enfants à prier. Et c'est « Je crois, j'adore, j'espère ». « Je t'aime ». Voilà ce que les enfants devaient dire à Dieu. Ce sont les vertus théologales, avec en plus l'adoration. L'adoration fait le lien entre la connaissance intellectuelle, la foi, et l'espérance, qui est un amour de Dieu, mais aussi des biens que Dieu nous donne, la vie éternelle, le salut, le bonheur. Un bonheur sans fin, oui, nous avons le droit de voir en Dieu ces choses. Et aimer ces choses, un monde qui sera de paix. Et ce monde de paix, il est généré, la paix c'est la fille directe, la fille aînée peut-être même, de l'amour fraternel. Et sans cet amour fraternel, il n'y a pas de paix véritable, et nous le savons en voyant l'actualité tous les jours. Donc, la foi, mais l'ange dit, dans l'adoration, maintenant, on introduit l'adoration au milieu des trois vertus théologales, et bien là, ratifier cette foi. L'adoration, c'est à la fois intellectuel et affectif. C'est les deux aspects. Et il faut connaître celui qu'on vénère. Et le connaissant, nous le vénérons d'autant plus, à cause de sa bonté, de sa beauté, de sa gratuité merveilleuse. C'est Dieu, tout Dieu, en quelque sorte. Et alors, ayant adoré le Seigneur, eh bien, jaillit en nous, oui, l'espérance, Dieu comme mon bien, je désire Dieu comme mon bien, vous voyez, c'est mon cœur d'homme, de femme qui désire Dieu ainsi. Et puis, la charité, l'amour véritable, l'amour de Dieu lui-même, qui est communiqué aux âmes. Et c'est seulement par la charité que nous pouvons nous aimer les uns les autres. De même que nous aimons Dieu par ce même sentiment surnaturel. C'est très beau, je trouve, d'avoir mis l'adoration comme ça, comme pont entre les vertus, entre la foi d'un côté et puis les vertus affectives, espérance et charité de l'autre. L'amour fraternel, c'est à la fois un rêve, parce que nous savons très bien que, sauf le millénium décrit dans l'Apocalypse, eh bien nous ne pourrons pas le réaliser sur la terre, nous n'en serons pas les témoins. Même la Christianitas, la société chrétienne du Moyen-Âge, n'est pas parvenue à ce niveau-là, bien qu'elle soit parvenue déjà à quelque chose de beau, puisque l'Occident, dans sa sagesse, son équilibre, est l'héritière de cette christianitas moyenâgeuse. Mais le millénium, il est inégalable, il précède, comme je vous le dis, la fin des temps. Bien, malgré tout, même si c'est un rêve, nous pouvons déjà en vivre dès maintenant. On n'aime pas d'amour fraternel le genre humain. Le genre humain, c'est abstrait. Et ça, ça conduit à des idéologies. Marx aimait le genre humain, pensait-il en tout cas. Mais c'était juste une idée. Il aimait ses idées. Le genre humain, dans son abstraction, c'est rien d'autre qu'une idée. On aime des personnes bien concrètes, qu'on voit ou dont on entend parler, au moins. L'amour fraternel se greffe là-dessus. Et puis, ben, évidemment, par l'imagination, on peut quand même étendre un peu plus et donner un peu plus d'abstraction, mais pas trop, à l'amour. L'amour est très réaliste. Alors nous voyons combien la paix sociale est fragile. Prions pour elle, parce qu'elle a des fondements extrêmement faibles et qu'elle est toujours prête à s'écrouler. Demandons vraiment au Seigneur, sinon de convertir, en tout cas de faire sentir aux gens combien ils ont besoin de Dieu. Parce que Dieu, lui, a besoin de tous ses enfants.